Bonjour, oui, donc nous allons effectivement vous parler d'une expérimentation de e-learning en kinésithérapie. Alors déjà, effectivement, le contexte, il est très simple dans un premier temps, c'est-à-dire que nous avons souhaité l'aborder sous le biais de la formation continue. La formation continue dans le monde ambulatoire, c'est-à-dire en pratique libérale, encore une fois dans un premier temps. Alors ADS, elle a la décision sur site, tout simplement. On va voir dans les diapositives suivantes pourquoi on l'a appelée comme ça. Alors, dans le champ de la kinésithérapie, c'est effectivement un outil qui est incitatif, qui est innovant et qui est formateur. Par contre, l'objet essentiel était de se baser sur le profit de l'apprenant, c'est-à-dire que la construction ne s'est pas faite à l'envers en disant tiens, on va créer un outil et éventuellement voir si l'outil est utilisable et peut être utilisé par des confrères, des consoeurs de terrain. Le cas s'est fait donc dans le sens inverse, c'est-à-dire d'abord s'intéresser aux besoins de l'apprenant, comment l'apprenant pouvait effectivement aller chercher son information, à quel moment il allait chercher son information, quels allaient être les freins et les facteurs favorisants. Donc, pour ce faire, en fait, tout simplement, les formateurs ont travaillé directement avec des praticiens de cabinet qui n'avaient pas de particularité spécifique dans une des thématiques retenues. Alors, le profil de l'apprenant, déjà, quel est son profil, quelles sont ses compétences, quelles sont les nouvelles compétences qu'il devra acquérir pour développer sa formation, quels sont les moyens les plus efficaces également pour développer ses compétences. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, c'est construit sur quatre premières thématiques. Ces quatre premières thématiques ont systématiquement, encore une fois, cherché à regrouper le formateur, donc la personne dont on vient de vous parler, l'apprenant et les outils. Le formateur, tout simplement, qui maîtrise son thème de formation, ça c'était essentiel, encore une fois, dans le monde de la formation continue, et qui apporte les éléments de contenu essentiels. Et l'apprenant, encore une fois, vraiment le leitmotiv essentiel, qui permet de se caler le plus possible à cette pratique ambulatoire qui est particulière par le temps passé, par les disponibilités, par les besoins aussi. C'est-à-dire que les quatre premières thématiques, nous avons travaillé dans notre domaine sur deux thématiques ostéo-articulaires, une thématique respiratoire et une thématique vasculaire. On sait très bien, nous, effectivement, que les thématiques ostéo-articulaires représentent facilement entre 70 et 80% des thématiques demandées. Les thématiques un petit peu différentes que sont le vasculaire et le respiratoire sont des besoins un petit peu différents. Donc, encore une fois, bien sûr, l'objectif, c'est d'adapter les outils. Alors pourquoi aussi cette volonté? Très simplement parce qu'on se rend compte à travers notamment les formations prises en charge qu'on forme actuellement à peu près 10% en formation continue de professionnels de santé, tout au moins dans le champ de la kinésithérapie. 10%, ça peut paraître peu, ça peut paraître pas beaucoup. Enfin, les chiffres, encore une fois, ne sont pas très très bien connus puisqu'on ne sait pas exactement si sur ces 10%, ce ne sont pas les mêmes parfois qui véhiculent dans différents organismes de formation. Et un élément très important qui va modifier les choses à partir de 2012, c'est que la formation continue devient obligatoire dans le champ de la santé. Donc ça veut dire obligatoire, ça veut dire quasiment du jour au lendemain, il faudrait former 100% de professionnels, alors que dans notre cas, on en forme à peine 10%. Donc les risques, bien évidemment, on les connaît tous à peu près, c'est-à-dire des organismes de formation qui pourraient s'autoproclamer bons organismes de formation, des formateurs qui pourraient s'autoproclamer bons formateurs. Donc vous voyez que les risques sont quand même très importants et l'objectif, là aussi, c'est d'apporter un outil qui puisse effectivement aller, en fait, là où la formation se fera, aller là où le professionnel pourra se former comme il le souhaite, c'est-à-dire notamment chez lui, donc à des horaires qui seront acceptables pour lui et adaptables pour lui. Trois niveaux d'accès qui ont été intégrés au sein d'un même module, c'est-à-dire qu'il y a au jour d'aujourd'hui quatre modules qui existent. Dans un même module, la personne aura accès à ce qu'on appelle donc nous l'aide à la décision en ligne, c'est-à-dire tout simplement des glossaires, des articles, des recommandations de la Haute Autorité de Santé. La formation en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un vrai parcours de formation où le professionnel passe bien sûr par différentes étapes de formation avec des évaluations intermédiaires, une évaluation finale plutôt, et également après une orientation vers des sites qui seraient référencés. Alors, là aussi, ces choses ne sont pas faites comme ça, elles se sont faites par rapport aux demandes de l'apprenant, ces fameuses personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'objectif était de concentrer les éléments pour que l'apprenant n'ait pas à véhiculer à droite à gauche et se perde en quelque sorte dans sa formation. Ce qu'on fait, nous, dans la profession régulièrement, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'information. Le problème, c'est avoir une garantie sur les sources qu'on va bien sûr aller puiser à droite à gauche et également, après, avoir aussi un chemin qui soit à peu près cohérent et lisible. Et là, sur ces quatre modules qui ont été construits, il y a une scénarisation qui s'est faite avec des chapitres, avec des scènes, donc avec encore une fois des évaluations intermédiaires. Et l'apprenant, Romain vous l'expliquera beaucoup mieux que moi après, sait exactement à quel endroit il est de sa formation, à quel moment il est de sa formation, et donc ce qu'il peut attendre des éléments présents et à venir. Donc ça, c'est très important parce que les premières formations se sont construites sur du distanciel pur. Bien évidemment, à terme, l'objectif, c'est de l'adosser à du présentiel, en post-présentiel ou en pré-présentiel. Mais encore une fois, en fonction des besoins, soit de la thématique de formation, et surtout du formateur qui reste là aussi, même à distance, maître de sa formation. Alors, les facteurs de réussite, tout simplement les choix pédagogiques essentiels. Le programme est accessible avant la formation. Le parcours didactique est bien évidemment simplifié pour qu'encore une fois la lisibilité soit la plus complète. Les contenus sont de qualité et toujours affichés, notamment par la connaissance du formateur, et c'est souvent un élément prépondérant. Les mises à jour régulières avec bien sûr une datation de ces différentes mises à jour. Le niveau multimédia élevé, c'est-à-dire à la fois des vidéos, des images, des radios, différents contenus en termes d'articles, de références, de recommandations. Une page de gauche, et là aussi Romain vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, qui permet encore une fois à l'apprenant de savoir où il se situe au sein de sa formation. Des quiz, donc différents modèles de quiz, un peu ce qu'on évoquait ce matin. Les horaires qui sont bien sûr modulables, et là aussi dans l'atelier de ce matin, on a beaucoup parlé de la notion de temps, qui est un élément qui change beaucoup avec la formation à distance. Et pour les professionnels ambulatoires donc, qui s'intéressent à ce genre de thématiques, tout simplement, pas d'absence au sein du cabinet, donc pas de perte de ressources non plus, tout simplement. La possibilité de choisir une thématique à distance, d'abord pour aller voir un petit peu ce que ça peut donner, et éventuellement de faire sa formation présentielle après, et le fait de pouvoir accéder à sa formation le soir ou le week-end de manière un petit peu plus simple. Voilà, je vais peut-être te laisser un peu la parole.
Merci. Donc le concept ADS, il a été développé, comme le disait Dominique, sur le modèle distanciel uniquement pour l'instant, mais il s'accompagne également de deux autres perspectives. La perspective, donc le cas numéro un ici présent, où on suivrait d'abord une formation distancielle pour acquérir des bases de connaissances, qui guiderait en suivant vers une formation présentielle pour acquérir un geste, par exemple. On est dans le métier de la kinésithérapie ici, c'est un métier de la main, donc le geste est important, et ça peut être un moyen d'accélérer la formation et de garder la touche technique en suivant. Le cas numéro 2, donc, c'est celui d'ADS tel qu'il est présenté actuellement, donc avec une formation distancielle pure. Et on a vu qu'on a traité aujourd'hui quatre thématiques, en relevant le défi de se passer du présentiel. On relève le défi, c'est une façon de voir la chose, ça permet tout du moins au professionnel qui est sur le terrain, qui a une problématique réelle d'un patient à traiter, d'acquérir rapidement des connaissances pour mieux se former, mieux le prendre en charge, et donc avoir un soin de qualité à proposer à son patient, quitte à continuer la formation par la suite. Et également la formation présentielle suivie de la distancielle, où là on commence par le technique pour ensuite compléter ses connaissances théoriques par la suite. Le site ADS, donc là, c'est les quatre formations que l'on a proposées, donc avec les quatre thématiques qui ont été abordées. Donc c'est d'abord une architecture commune, un site qui lui va donner accès à différents contenus, des contenus spécifiques. C'est une boîte à outils, on va dire, qui est donnée aux formateurs à base de vidéos, de textes, de références bibliographiques, de sons, de quiz, de sortes de jeux de rôle interactifs. Donc différents outils qui ont été mis à la disposition dans le but de diffuser la connaissance à l'apprenant de la meilleure manière. Donc avec un cahier des charges techniques commun qui permet de diffuser, de créer de nouvelles formations rapidement. On a actuellement 4 formations. Vers la fin de l'année, on aura basculé vers une dizaine globalement, et ça montera en charge progressivement. Le cheminement de l'apprenant, il est très important. On est rassuré quand on est dans un amphithéâtre comme celui-ci, parce que on a un professeur à qui on peut demander de revenir sur un point à tout moment. On n'est pas perdu, on a un contact. Sur Internet, le risque, c'est de rompre ce contact. Donc le cheminement, savoir où on est à tout moment, savoir où on se situe, quel est le raisonnement, quelle est la méthodologie, c'est indispensable. On a accentué ce point pour vraiment permettre à l'apprenant de se situer et de ne pas perdre le fil de la formation. Donc le contenu, on l'a déjà dit, donc il est riche en contenu multimédia, notamment via des vidéos, des images, différents sons. On a notamment sur le cours sur la BPCO, donc sur les problèmes respiratoires, on a des fichiers sonores où on entend les différents types de respiration. Mais on s'appuie sur la bibliographie qui est essentielle. On l'a vu, donc on n'est pas sur le Wikipédia qui était qui était évoquée comme base bibliographique ce matin. On s'appuie sur les textes, sur des référentiels de la HAS, et on renvoie à chaque fois vers la source selon le type de source, bien entendu, et un contenu qui est toujours à jour. L'évaluation, elle est indispensable. C'est ce qui permet de savoir où on en est un petit peu de son cheminement en tant qu'apprenant. On peut revenir dessus, on peut la faire une fois, on peut la faire deux fois, on peut la faire trois fois, on peut s'améliorer, et à chaque fois on va avoir les éléments qui vont permettre de valider, de comprendre en quoi on a fait une erreur, en quoi on a été bon. Là on voit un système de quiz assez élémentaire, on va dire. Vrai-faux ou avec le choix multiple, etc. Il existe aussi, comme je disais, un jeu de rôle où on commence une formation par un cas pratique, en réalité, où on a une formation, on voit un cas, une personne qui monte un escalier, qui a des problèmes respiratoires, et suite à ça, il va y avoir un kiné virtuel qui va poser des questions, qui va représenter le kiné traditionnel en cabinet, qui va donner son avis. C'est un avis qui a été élaboré à partir d'un panel, qui a été sondé. Et donc, suite à cet avis vidéo, le kiné apprenant va être amené à répondre, à donner le sien. Et il va y avoir un système de questions-réponses comme ceci qui est très interactif et très efficace. Bien sûr, le système, c'est, comme je disais, c'est une boîte à outils. On a un système qui est encore jeune et qui va se développer. Mais on peut le décliner. On peut le décliner sur d'autres professions. On a actuellement, je ne sais pas si je peux en parler. Oui, je peux en parler. Mais en contact avec la fédération donc des podologues et des orthophonistes pour développer ce genre de pratique de e-learning auprès de ces professions, de ces professionnels. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir diffuser assez largement. Il y a une vraie demande de la part des professionnels. Ça a été toujours très bien accueilli car tout simplement, s'il y a de la demande de la part des organismes qui s'occupent de ces professionnels, c'est parce que les étudiants, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les podologues, car on est toujours étudiants tout au long de notre carrière, en ont besoin. On a besoin d'améliorer nos pratiques, et donc je pense que la demande est très forte. Et pour les raisons que Dominique a évoquées tout à l'heure, gain de temps, problème de mobilité. Se fermer un cabinet, c'est difficile, on a des patients, hein, donc pour toutes ces raisons, le e-learning est une bonne solution. Merci.